tous. C'est vrai que c'est une joie de se retrouver ce matin, de voir tous ces jeunes, ces enfants. Et vous savez, moi je sais qu'on a vu, Joatan nous l'a dit, aujourd'hui, ils vont faire, là, pendant ce temps, ils ont une sorte de mini-célébration entre eux, où c'est les ados qui vont animer ce temps. Et donc, voilà, comme Mathieu, Sarah et Astrid, qui s'occupent des plus petits, ne sont pas là parmi nous aujourd'hui, les plus jeunes pourront profiter aussi de ce temps animé par les ados ce matin. On se réjouit de cela, de voir comment le Seigneur équipe de ces jeunes qui s'engagent aussi avec le Seigneur, à travers le baptême notamment, on en a eu plusieurs cette année. Soyez pas surpris aussi si vous voyez quelqu'un qui prend plein de photos aujourd'hui. Voilà, on a Nicolas qui est avec nous, qui est de l'église Fireplace, qui est une église voisine avec qui on a des bonnes relations, mais qui est aussi celui qui, vous avez vu, on a un nouveau site internet, on a un nouveau logo, tout ça. Bah c'est en grande partie grâce à lui. Voilà, c'est lui qui a fait tout ce travail. Et puis aujourd'hui, il vient prendre des photos pour avoir aussi des belles photos sur notre site internet, pour notre communication. Des photos un peu plus pro que ce que nous on fait avec nos petits téléphones. Voilà. Mais donc, soyez, vous inquiétez pas, c'est pas un journaliste qui vient enquêter sur les évangéliques. voilà, il est là à notre demande. Voilà, je vous invite à nous tourner ensemble vers la parole de Dieu maintenant. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous un sujet d'actualité, l'avenir. Votre avenir et plus généralement l'avenir de ce monde, de notre monde. Alors je ne vais pas me lancer dans des prédictions, mais j'aimerais simplement voir avec vous ce que la Bible dit sur notre avenir et l'avenir de ce monde, ce qu'on appelle en général en tant que chrétien l'espérance chrétienne. L'espérance sur la finalité de notre monde et de notre vie. De tout temps, en tant qu'être humain, on a cherché à connaître l'avenir ou à imaginer l'avenir. Certains vont voir des astrologues, d'autres consultent leurs voyants, d'autres encore se passionnent pour les prévisions météo. Et l'être humain aimerait tellement savoir ce qu'il attend demain. Et de façon plus générale, on peut se poser la question aussi de ce qui attend notre monde. Aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup de voir le climat, on s'inquiète face aux guerres, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale ? Et en tant que chrétien, on a aussi des interrogations par rapport à ce que nous dit la Bible, par rapport à la fin de ce monde, par rapport au retour de Jésus. On se pose des questions, on entend des choses, on lit des choses sur les réseaux sociaux, on écoute des messages parfois sur Internet ou dans l'Église. Hein. Est-ce qu'on doit s'attendre à des tribulations, à des persécutions ? Et on peut se poser des questions. Est-ce que Jésus va bientôt revenir ? Est-ce que les conflits actuels sont les signes de la fin des temps ? Est-ce que les choses vont aller de pire en pire ? Est-ce qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale ? Est-ce que l'Antichrist est déjà arrivé ? Des questions qu'on peut voir parfois à droite et à gauche. Ce n'est pas des questions nouvelles. Hein. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous voyez que depuis 2000 ans, les chrétiens se posent ces mêmes questions. Et au risque de vous décevoir, je ne vais pas vraiment vous donner de réponse à ces questions durant ce message. Parce que les textes bibliques au sujet de la fin des temps font l'objet de multiples interprétations, spéculations, et c'est vrai que ce n'est pas les textes les plus simples de la Bible. On peut penser par exemple au livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui est un livre qui nous parle un peu de ce qui va venir. Et ce n'est pas un livre facile. Alors c'est pour ça qu'à partir du jeudi 30 octobre, on va commencer une série d'études bibliques sur le livre de l'Apocalypse durant notre réunion du jeudi soir. On aura un peu un nouveau format pour notre réunion du jeudi soir à partir du 30 octobre avec un temps de louange, un temps d'étude et un temps de prière. On va combiner un peu tout chaque jeudi. Mais voilà, il y en a qui se réjouissent. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler de l'Apocalypse, pas spécifiquement en tout cas, je citerai quand même un ou l'autre verset. Donc rendez-vous à partir du 30 octobre pour ça, mais je ne vais pas vous proposer non plus une nouvelle interprétation des textes difficiles de la Bible qui parlent de la fin des temps, mais j'aimerais plutôt nous aider à avoir quelques points de repère généraux sur ce que la Bible dit par rapport à la fin des temps. Quand on parle de fin des temps, vous avez peut-être entendu aussi ce mot qu'on utilise parfois en théologie, l'eschatologie, les choses de la fin, la réflexion sur, ce qui nous attend. Mais dans la Bible, c'est surtout le langage de l'espérance qui est là. Pour nous, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, c'est une espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et on va se focaliser sur ce qui est au cœur de notre espérance chrétienne, sur ce que la Bible présente d'abord clairement, sans détour, où là tout le monde, tous les chrétiens sont d'accord sur les certitudes que nous avons à ce sujet. Et puis on parlera dans un deuxième temps un petit peu qu'est-ce qu'on fait des incertitudes, des choses qui sont plus débattues, où c'est moins clair à ce niveau-là. On va commencer par les certitudes. Certitudes bibliques. Et on va voir cinq certitudes qui me semblent importantes sur ce que la Bible dit clairement au sujet de la fin des temps. Les éléments qui sont vraiment le cœur de notre espérance en tant que chrétien. Et premièrement, première certitude, c'est que Dieu règne. Dieu règne. Il est le roi des rois qui règne sur l'histoire du commencement jusqu'à la fin. Rien n'échappe à son règne. Personne ne peut s'y opposer indéfiniment. Et parce que notre Dieu est un roi infiniment bon, ce n'est pas un roi cruel ou dur, parce qu'il est ce roi-là, eh bien c'est une bonne nouvelle. Dieu règne. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve encore et encore affirmé dans les textes bibliques qui évoquent la fin de l'histoire. C'est le cas dans le livre de l'Apocalypse. J'ai déjà mentionné ça jeudi, mais je vais le rementionner à nouveau. Chapitre 4 de l'Apocalypse. Vous avez une grande vision dans l'Apocalypse qui s'étale du début du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, donc quasiment toute l'Apocalypse. Une grande vision sur, que le Seigneur Jésus révèle à Jean sur ce qui doit venir. Et cette vision commence comme cela au chapitre 4, versets 1 et 2. On va afficher le texte. Jean dit « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début, c'est la voix du Christ ressuscité, qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit se saisit de moi. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un siégeait. » Je trouve ça extraordinaire. Jésus dit à Jean « Viens, je vais te montrer ce qui va arriver. Je vais te montrer ce qui doit arriver dans l'avenir. » Et là, on s'attend tout de suite à avoir des révélations étonnantes. Mais la première chose, toute première chose que Jean va voir, c'est un trône. Littéralement, le texte dit « Et voici un trône. » Un trône dans le ciel. Et quelqu'un qui siège sur le trône. Le trône, c'est le siège du roi. Hein, c'est le siège du roi. Il y a un roi qui siège dans le ciel. Et au-delà des tumultes de ce monde, il y a un roi qui siège dans le ciel. Et ce roi, dans tout le chapitre 4, va présenter la gloire, la grandeur, la magnificence, l'éternité. Ce n'est pas l'empereur romain qui était le grand roi de cette époque. Ce n'est pas le roi Louis XIV. Ce n'est pas le roi Charles III. Ce n'est pas le roi des Belges. Ce n'est pas le président américain. Ce roi qui règne sur tout l'univers, c'est le créateur de l'univers, c'est le Dieu tout-puissant, éternel, infiniment grand. Dieu règne, il règne depuis toute éternité, depuis le commencement, et il règnera encore à la fin. Et la Bible nous dit que malgré la rébellion de Satan et des démons contre le règne de Dieu, malgré la rébellion de l'être humain contre son créateur, son roi créateur, et même si tous les rois de la terre et toutes les armées du monde se liguaient contre lui, Dieu règne malgré tout, encore, et il règnera pour toute l'éternité. Et non seulement il règne, mais c'est un roi qui veut notre bonheur, notre salut. Et ce roi que nous rejetions en tant qu'être humain, eh bien, il est venu lui-même sur la terre. Pour non pas nous régler notre compte, mais d'abord nous dire son amour pour nous, son désir de nous pardonner, son désir d'être, que nous soyons réconciliés avec lui. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui s'est fait être humain pour nous démontrer l'amour du roi des rois, et qui est venu non pas comme un roi violent et puissant, mais comme un roi serviteur, qui est venu mourir à notre place sur la croix. Un roi qui serviteur, mais qui ne va pas rester dans la tombe non plus, qui va ressusciter le troisième jour, qui va démontrer sa victoire sur la mort et sur le péché. Un roi qui ensuite est monté au ciel, qui s'est assis à la droite du Père, et un roi qui reviendra pour rétablir le règne de Dieu sur la terre. Alors si Dieu est notre roi, si c'est dans ce roi-là que nous avons placé notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. N'ayons pas peur. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle de ce qui va attendre les disciples, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a de la place pour vous dans ma maison, dans la maison de mon Père. Et en Matthieu chapitre 24, un texte qui va s'afficher aussi, Jésus dit à ses disciples qui se posent des questions sur l'avenir, « Vous allez entendre le bruit de guerres proches, de nouvelles sur des guerres lointaines. » N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Et c'est vrai que, humainement parlant, on peut peut-être s'inquiéter face à l'avenir ici-bas, face aux guerres, face aux catastrophes, face à la question du réchauffement climatique. Mais si nous plaçons entre nous notre confiance en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous n'avons pas à craindre, que notre cœur ne se trouble pas. Nous n'avons rien à craindre. Et tout au long de la Bible, notre Seigneur nous répète encore et encore, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, faites-moi confiance. Est-ce que face à ces bruits de guerre, face à ces inquiétudes peut-être un peu générales, on est capable de faire confiance au roi des rois et de trouver en lui notre confiance? Oui, Dieu règne. Et c'est une bonne nouvelle. Amen. Deuxième certitude que la Bible affirme clairement, c'est que Jésus, le roi, notre roi, va revenir. Le retour de Jésus. Cette attente du retour de Jésus, elle est affirmée souvent dans le Nouveau Testament. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il reviendra. Ça fait partie des éléments centraux de la foi chrétienne. C'est le point central de notre espérance chrétienne. En tant que chrétien, on n'attend pas un événement ou quelque chose en particulier, on attend d'abord une personne, Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons, celui que nous aimons, celui qui a donné sa vie pour nous, que nous attendons de voir face à face. Et si Jésus est venu une première fois sur la terre de manière humble et discrète, comme un petit bébé, hein, il est né simplement, il a vécu humblement, la Bible nous dit qu'il reviendra de manière glorieuse et visible de tous. Matthieu 24 dit cela. Matthieu, on va voir le texte au verset 30. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Cette expression du Fils de l'homme dans les évangiles désigne Jésus, le Christ. Christ glorieux. Et ce jour-là, tout œil le verra. Et tout œil sera forcé de reconnaître que Jésus, que notre Dieu est roi, qu'il est Seigneur. Et pour nous croyants, parce que nous avons placé notre foi en lui, notre confiance dans ce roi, non pas sur nos propres forces, mais sur son œuvre déjà accomplie, ben ce retour de Jésus, c'est un jour merveilleux. Un jour que nous devrions attendre, espérer, on pourra voir notre Seigneur face à face. Et c'est pourquoi on peut se réjouir par avance de ce jour qui va venir. Et d'ailleurs, la Bible se termine sur cette attente du retour de Jésus. Si vous regardez les tout derniers mots de la Bible à la fin de l'Apocalypse, on trouve cette invitation de l'Esprit et l'Épouse qui disent « Viens, Seigneur Jésus, viens, viens, Seigneur Jésus. » Le Seigneur dit « Je viens bientôt » dans ce texte. Et cette mention de l'Épouse qui dit « viens », ça fait allusion à une image qui est utilisée dans la Bible pour parler du retour de Jésus, l'image d'un mariage. Un mariage entre Jésus et son peuple, son épouse, et qui est l'Église, qui est le peuple de Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous, certainement, ont déjà été fiancés un jour. Hein. Vous vous souvenez certainement de l'impatience que vous aviez en attendant le jour du mariage. On attendait ce jour-là. Est-ce qu'on est dans cette même attente comme des fiancés qui attendent la venue du, du Christ avec impatience, comme on attendrait le jour de mariage. Troisième certitude que nous fournit la parole de Dieu, c'est que la vie ne s'arrête pas avec notre mort physique. Il y a une vie après la mort. Et plus particulièrement, ce qui est assez clairement affirmé dans la Bible, c'est la résurrection au dernier jour. C'est quelque chose qui est au cœur de l'espérance du croyant, c'est quelque chose qui est annoncé encore et encore dans le Nouveau Testament. Un jour, nous ressusciterons avec un corps entièrement renouvelé, un corps sans arthrose, sans défaillance, sans trou de mémoire, sans mal de dos, sans Covid. C'est le rêve, n'est-ce pas, hein ? Et d'après la Bible, cette résurrection dans ce corps renouvelé, ce corps qui est d'une manière à la fois dans la continuité de notre corps actuel et un peu différent aussi, ça se produira à la fin des temps, en lien avec le retour de Jésus, avec son jugement, après le jugement, en lien avec le jugement dernier aussi. Parce que notre roi ne souhaite pas régner sur un royaume de mort, hein, mais de vivants. Et pas juste des âmes qui planent dans le ciel ou dans le vide intersidéral, hein. Des hommes et des femmes avec un corps pour le louer, pour le servir, pour l'adorer, pour vivre ce bonheur dans la présence du Créateur pour lequel il nous a créés. Et si la résurrection se produit à la fin des temps, d'autres passages de la Bible évoquent aussi le fait, là c'est un aspect peut-être moins clairement affirmé, mais qui semble quand même quelque chose qu'on trouve dans la Bible, que les croyants, dès leur mort, avant même que Jésus soit revenu, Jésus n'est pas encore revenu, hein, dès leur mort, sont dans la présence du Christ. Ce que les théologiens appellent parfois l'état intermédiaire. Et ça se laisse entrevoir, par exemple, dans un passage où Jésus dit au brigand sur la croix qui est à côté de lui, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ou lorsque Paul dit, « Je désire m'en aller pour être avec Christ. » Il parle de sa mort. Et il dit, voilà, mais bon, je sais que j'ai encore du boulot ici. Toutefois, la Bible, voilà, ne nous dit pas beaucoup plus de choses sur cet état intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe exactement pendant ce temps-là? Mais ce qui est central dans la Bible, que ce soit pour, d'ailleurs même pour la résurrection finale, l'état final sur comment on sera exactement, est-ce que, parfois on se pose des questions, est-ce qu'on reconnaîtra nos proches, etc. La Bible ne nous dit pas grand-chose là-dessus, pardon. Mais par contre, ce que la Bible rappelle encore et encore, et c'est vraiment le point central de notre espérance, c'est que nous serons pour toujours avec Christ, dans la présence du Dieu vivant, dans la présence de celui... Ouais, il ne peut pas y avoir de plus grand bonheur que d'être dans sa présence. Et quelle que soit la façon exacte dont ça va se passer, c'est ça qui est au cœur de notre espérance. La définition même du paradis selon la Bible, c'est d'être dans la présence du Christ, la présence du Dieu vivant. Quatrième certitude en rapport aux événements de la fin des temps, qui revient fréquemment dans le texte biblique, c'est le jugement dernier. La justice sera faite. Face aux injustices de ce monde, face à ceux qui semblent impunis pour le mal qu'ils font, nous avons une espérance. Un jour, tout être humain comparaîtra devant le divin juge. Parce que notre Dieu est un roi parfaitement juste, et l'injustice ne peut pas prévaloir sur son règne. Hébreux 9, verset 27, nous dit qu'il est donné à chaque homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et de nombreux textes expliquent qu'au jour du jugement, chaque homme sera jugé selon ses œuvres, même pour les chrétiens. Un texte de Paul dit « Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui, alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. » Il y aura une justice à la fin des temps. C'est quelque chose qui revient très souvent dans la Bible, le jugement dernier. Mais en ce qui concerne le salut, il nous est également expliqué que face au jugement de Dieu, nous méritons tous l'enfer éternel, puisque nous sommes tous coupables, tous pécheurs. Personne ne mérite de vivre l'éternité dans la présence d'un Dieu parfait et totalement saint. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour prendre sur lui notre condamnation, la condamnation que moi je mérite, Et en tant que chrétiens, nous savons, nous avons cette certitude, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, que nous sommes acquittés de cette condamnation que nous méritions. Je sais qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui m'a fait justice, qui m'a justifié. Autrement dit, alors que nous sommes coupables, Dieu nous a déclarés justes à cause de ce que Christ a accompli. Et nous pouvons donc faire face à ce jugement avec une pleine assurance. Non pas de ce qu'on serait bon ou meilleur, mais de ce que notre vie s'appuie sur l'œuvre accomplie une fois pour toutes en Jésus-Christ. De ce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme dit aussi l'apôtre Paul au Romains chapitre 8. Voilà, mais il y aura une justice, et c'est une bonne nouvelle. Cinquième certitude que nous présente clairement la parole de Dieu, c'est la nouvelle création, ou le nouveau ciel, la nouvelle terre, le renouvellement de toutes choses à la fin des temps. La fin de l'Apocalypse se termine sur cette description de la réalité finale, éternelle, celle qui nous attend à notre univers. Après que le Seigneur ait détruit Satan, après la Satan qui est l'ennemi de Dieu, après avoir réduit la mort à néant, après avoir évacué le péché de la surface de la création, notre Dieu vient renouveler la terre et les cieux. Et il vient régner sur une nouvelle terre, sur une terre renouvelée pour toute l'éternité. La réalité finale qui nous attend, si nous reconnaissons Jésus comme notre roi, c'est donc une vie dans une merveilleuse création. Pas juste voilà, en train de planer dans le ciel. Hein. On sera sur quelque chose qui ressemble, mais que pour le meilleur, à la création actuelle. Une nouvelle création qui est décrite dans l'Apocalypse avec des images vraiment magnifiques. On a cette image d'une cité extraordinairement grande, entièrement faite d'or, de pierres précieuses, ou bien cette image d'un jardin extraordinaire qui ressemble au jardin d'Éden, qui était le plan de Dieu initial. Et quand nos enfants étaient bien plus jeunes, on avait une Bible illustrée qu'on lisait avec eux en famille, quand ils étaient petits, hein, vraiment, il y a bien longtemps. Et pour ce passage de la Bible, dans cette Bible, il y avait une très belle image qui illustrait cette nouvelle Jérusalem. Et c'était tellement beau que notre fils Ethan, qui était, je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, 5 ans peut-être, il avait dit un jour, vivement que Jésus revienne, ça sera trop super. Et c'est bien vrai. Ce qui nous attend, ça sera trop super. Parce qu'au-delà des belles images, ce qui nous est promis, c'est surtout une éternité dans la présence de notre Dieu, lui qui donne la vie en abondance auprès de nos rois, notre roi, plus de souffrance, plus de deuil, plus de conflits, plus de maladies. Voilà ce qui nous attend. Amen. J'espère que ça vous réjouit ce matin, ces certitudes que nous avons, qui sont affirmées clairement concernant notre avenir et l'avenir de ce monde. Ça, c'est notre espérance en tant que chrétien. C'est le cœur de notre espérance. Et c'est réjouissant. Si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, on n'a absolument rien à craindre de l'avenir, que ce soit sur cette terre, que ce soit dans l'au-delà, que ce soit dans l'éternité. On a un avenir fait d'espérance. Pour le chrétien qui place sa foi dans le roi Jésus-Christ, la fin du monde, le retour de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de film catastrophe avec nous. Et ça devrait être un sujet de réjouissance, un sujet qui nous aide aussi à traverser les temps plus difficiles. Alors réjouissons-nous, Jésus va revenir et c'est une grande et belle nouvelle. Amen. Voilà les certitudes, et je pense que c'est bien de les garder en mémoire. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais que faire des sujets plus discutés, on va dire, ou des incertitudes? Que faire des incertitudes? Parce que, c'est vrai qu'à côté de ces certitudes majeures sur lesquelles les chrétiens sont généralement tous d'accord, hein, en tout cas ceux qui placent la foi dans ce que dit la Bible, il existe des débats en ce qui concerne peut-être la manière plus précise dont se déroulera la fin des temps. Comment est-ce que ces différents éléments qu'on a évoqués vont s'enchaîner aussi? Et parmi les chrétiens qui prennent au sérieux les textes de la Bible, il y a une diversité d'opinions, il faut le savoir, concernant la manière d'interpréter, de rassembler ces textes sur la fin des temps. Pour certains, Jésus va d'abord revenir enlever son Église, puis il y aura une période de tribulation de 7 ans pour ceux qui restent sur la terre, et ensuite Christ viendra instaurer son règne sur terre pendant 1000 ans, après quoi seulement aura lieu le jugement dernier et la fin, la nouvelle création. Pour d'autres, il n'y a pas de période de 1000 ans qu'on doit attendre, ni de grande tribulation. Le retour de Jésus marquera simplement la fin, la résurrection, le jugement dernier et la nouvelle création. Pour certains, les catastrophes, les guerres, les persécutions devraient se multiplier jusqu'au retour de Jésus ou vers la fin des temps. Pour d'autres, à l'inverse, ou parfois de manière complémentaire, le royaume de Dieu doit se manifester de plus en plus visiblement sur terre jusqu'à ce que revienne Jésus-Christ. Pour certains, Israël va jouer un rôle central dans les temps de la fin. Pour d'autres, pas forcément. On n'est pas aussi sûr, en tout cas. Et encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est des personnes qui aiment la Bible, qui la lisent, qui la chérissent. Alors, on a même des noms savants qu'on a donnés à ces différentes explications ou interprétations. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà entendu prémillénarisme, postmillénarisme, amillénarisme, dispensationalisme, pré-tribulationnisme, post-tribulationnisme. Voilà, c'est des grands mots qu'on utilise, mais c'est des débats, en fait, des mots qui reflètent des débats qui ont parcouru l'histoire de l'Église. Ça fait 2000 ans que les théologiens discutent, débattent, sans jamais arriver vraiment à un consensus sur ces questions-là. Des croyants qui ont passé leur vie à étudier la parole de Dieu, qui arrivent à des conclusions différentes. Et je peux vous dire que beaucoup, parce que moi, je suis aussi un peu dans les milieux théologiques, sont vraiment des croyants qui aiment les Écritures, qui croient en leur inspiration, qui se laissent conduire aussi par le Saint-Esprit. Et pourtant, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la manière de comprendre les textes sur ces questions. Et face à ce constat, je pense qu'il y a deux attitudes possibles. La première serait de faire comme parfois certains chrétiens font, de s'isoler un peu et de dire « moi, je suis absolument certain de savoir comment ça va se passer ». Parce que moi, j'ai reçu la bonne interprétation, ou moi, le Saint-Esprit m'a révélé comment ça va se passer, je vais vous le dire, et comment il faut interpréter l'Apocalypse. Certains ont même prétendu connaître le moment ou la date du retour de Jésus. Et malheureusement, au long de l'histoire de l'Église, ce genre d'attitude a donné souvent lieu et naissance à différents mouvements qui sont vraiment sectaires ou à la limite vraiment de la foi chrétienne, qui ont parfois mal fini aussi au cours de l'histoire. Et encore aujourd'hui, on a des groupements qui arrivent à avoir du monde parce qu'ils vont vous dire voilà comment il faut comprendre l'Apocalypse. Et ça part de ça. Comme si le Saint-Esprit, vous savez, n'était pas à l'œuvre parmi les millions ou les milliards de chrétiens qui, depuis 2000 ans, essayent de comprendre sa volonté en étudiant sa parole. Je pense, vous voyez, cette attitude, ce n'est pas forcément très juste face à cela. Et à mon avis, il y a une attitude qui est plus prudente à adopter, plus humble, de reconnaître humblement que c'est difficile d'avoir des certitudes sur ces détails de ces questions. Et que cette ignorance ou cette incertitude, ce n'est pas lié à un manque d'étude de la Bible, mais au fait que Dieu lui-même n'a peut-être pas voulu nous révéler les détails de notre avenir dans sa parole. Et je crois que notre Seigneur a même volontairement souhaité ne pas révéler tous les détails sur ce qui concerne son retour ou la fin des temps. On sait qu'il reviendra, on l'attend. Comment ça va se passer exactement? Il y a des indices, il y a des choses qui nous sont laissées, mais il n'a pas voulu nous donner tous les détails. Il aurait pu très bien nous donner le calendrier exact avec les moments, etc. Et même Jésus lui-même a dit cela, en fait. Ce que je vous dis là, ce n'est pas juste mon opinion, c'est ce que Jésus a expliqué. En Matthieu 24, les disciples demandent à Jésus de leur expliquer « Dis-nous quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Qu'est-ce que fait Jésus? Il leur parle de signes, des guerres, des catastrophes, la persécution, des faux prophètes. Et il met garde, d'ailleurs, contre aussi ces faux prophètes qui prétendraient savoir exactement aussi où il est ou quand il est. Il reviendra. Et puis, il conclut de façon étonnante, après avoir donné plein d'éléments sur cette affirmation, il conclut son discours en Matthieu 24, verset 36, on peut afficher le texte en disant « Personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure. Pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Personne ne sait. Il continue, conclut au verset 42. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne pouvez pas savoir. Dieu n'a pas voulu qu'on le sache. En acte 1 aussi, avant que Jésus monte au ciel, ses disciples lui demandent « Seigneur, est-ce que ces temps-ci que tu vas venir rétablir le royaume d'Israël ?» Et vous voyez ce que répond Jésus, la diapo suivante, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ça ne nous appartient pas. Jésus l'affirme clairement, « Dieu, le Père, n'a pas voulu que nous sachions tout concernant son l'heure, en tout cas le temps, les moments de son retour. » Jésus l'a dit à ses disciples quand même, qui l'ont côtoyé, qui ont vécu avec lui, qui le connaissaient bien quand même. Hein. Il dit, je reviendrai à l'heure que vous ne pensez pas. C'est quand même fort. Alors pourquoi Dieu ne veut pas qu'on sache cela? Je pense que c'est probablement pour notre bien. Imaginez si vous saviez tous les détails de votre avenir, l'heure précise de votre mort ou du retour de Jésus, hein. Il y a des films qui imaginent un peu ce genre de scénario où on sait que le monde va être détruit à tel jour, à telle heure. Et vous voyez, en général, dans les films, on voit bien que ça part dans tous les sens, un peu n'importe comment, parce qu'on réagit de manière folle en général. On n'est pas... Dieu ne nous a pas créés pour qu'on sache cela. Mais notre Dieu est un Dieu bon. Et il n'a pas prévu qu'on passe notre vie en attendant l'heure. Le moment comme on attend le bus ou le train qui va passer, vous savez, à telle heure. Dieu ne souhaite pas qu'on nous prépare, qu'on se prépare au retour de Jésus comme on préparerait un départ en voyage. J'ai mis de l'ordre dans mes affaires, j'ai fait mes bagages et j'attends. Vous savez comment Jésus nous encourage à préparer son retour ? En continuant d'œuvrer pour lui, de le servir avec nos forces qui nous donnent jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est le message principal de plusieurs paraboles que Jésus va donner juste après ce discours sur la fin des temps dans les évangiles, en particulier au Matthieu, chapitre 24, 25. Juste après avoir dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra quand vous ne pensez pas », Jésus enchaîne verset suivant avec cette parabole en Matthieu 24, on va dire, afficher le texte, verset 45. « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent ?» En voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Puis ensuite, on a la parabole, au chapitre suivant, on a la parabole des talents. On a où Jésus explique que le bon et fidèle serviteur, c'est celui qui aura fait fructifier les talents, toutes les bonnes choses que le Seigneur lui aura confiées. Pour le bien des autres, hein, pas pour simplement notre propre bien. Et pas celui qui a peur, vous savez, celui qui cache son talent, parce qu'il a peur. Il a peur du retour imprévu de son maître. Et il cache son talent dans son jardin et il attend. Le bon et fidèle serviteur, c'est celui qui attend le retour de Jésus avec joie, sans inquiétude, qui y va, qui est au service, qui fait fructifier ce que son maître lui a laissé. Et Jésus explique ensuite que lors du jugement dernier, il y a cette image aussi où il dit « Ceux qui seront bénis, c'est ceux qui auront pris soin de ceux qui ont faim, de ceux qui sont étrangers, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en prison. » Et voyez, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus ? Il dit « La meilleure façon de nous préparer à son retour, ce n'est pas de se lancer dans des calculs sur la chronologie biblique ou de regarder les infos en boucle pour savoir si peut-être que Jésus va revenir là. » ou de s'alarmer à chaque guerre ou catastrophe. La meilleure façon de préparer le retour de Jésus, c'est de se mettre au boulot, à son service. C'est comme ça qu'on se prépare à son retour. Le serviteur fidèle, intelligent, c'est celui qui est surpris, dans le bon sens, par le retour de Jésus en plein travail, en train de prendre soin des autres. Celui qui est en train de travailler pour le roi des rois. Et ça, c'est toute notre vie. Notre vie est appelée à être un service pour le roi, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie de famille, dans notre travail, nos études, dans une vie d'adoration pour notre Seigneur. Et ça, c'est la meilleure manière de préparer le retour du roi. Parce que servir notre roi, vivre pour l'éternité dans sa présence, ben c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Hein. Et la question qu'il faut nous poser ce matin, c'est qui est-ce que je serai en train de servir lorsque le roi reviendra? Voilà donc ce que la Bible dit sur la fin des temps, sur le retour de Jésus. Et d'un côté, vous voyez, elle nous donne des certitudes réjouissantes. Il faut garder bien ça en tête parce que c'est ça qui doit nous accompagner. Il y a des choses fortes qui nous sont annoncées. Oui, Jésus va revenir. Oui, justice sera faite. Oui, il y a une espérance au-delà de la mort. Oui, la réalité finale de la nouvelle création qui nous attend, c'est juste trop super. Et ces certitudes, elles doivent nous réjouir. Nous apaiser peut-être aussi face aux inquiétudes pour l'avenir. Notre Dieu règne. Et si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, on n'a rien à craindre. Notre Dieu règne. Et la Bible nous présente aussi des incertitudes, ou en tout cas des sujets d'interprétation. Et on ne sait pas forcément exactement comment et quand les choses vont se produire. Mais ces incertitudes, elles doivent nous encourager à nous tenir prêts pour le retour de Jésus, car il peut revenir à tout moment. Et comment est-ce qu'on peut se préparer à son retour? Eh bien, en œuvrant, je dirais, c'est ce que j'ai mis en dernière slide, d'œuvrer tranquillement et fidèlement dans la joie et l'espérance de son retour. En œuvrant, voilà, tranquillement, dans la joie, l'espérance de son retour pour notre Seigneur. Il n'y a pas de meilleur moyen de préparer le retour de Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous encourage, ta parole qui nous rappelle que si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, si nous vivons une vie placée sous le signe du service du roi des rois, alors nous pouvons nous réjouir de ce qui nous attend. Nous avons un avenir fait d'espérance en tant que chrétiens. Merci Seigneur parce que tu vas revenir et que c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur parce que tu vas venir manifester ta justice. Merci parce que tu vas venir établir ton règne pour l'éternité. Merci parce que l'histoire ne t'échappe pas Seigneur. Tu tiens le monde dans tes mains, tu règnes. Et Seigneur, nous voulons placer nos regards et notre confiance dans ton règne. Et Seigneur, dans l'attente de ton retour, nous te prions que ton Saint-Esprit nous aide à vivre en ayant les yeux fixés sur le roi des rois, sur Jésus-Christ, dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions vivre une vie d'adoration et de service pour toi, Seigneur, à travers notre façon d'aimer notre prochain, à travers notre vie de famille, à travers une vie de marquée par la sainteté, marquée par ta présence, à travers une vie, Seigneur, où nous dépendons toujours de toi en toutes circonstances, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, dans notre lieu de travail, sur nos lieux d'études, dans nos projets, Seigneur, que nous puissions garder en tête cette espérance que nous avons en Jésus-Christ et être surpris par ton retour, mais une bonne surprise. Une bonne surprise, une surprise de joie, comme lors de retrouvailles avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, la personne que nous aimons le plus au monde, toi Seigneur notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois béni et viens encore Seigneur imprimer dans nos cœurs cette espérance que nous avons en toi. Au nom de Jésus nous prions. Amen.
Amen. Merci au Seigneur de nous avoir rappelé ce matin tout son amour, sa souveraineté, toutes ses certitudes qu'il donne à ceux qui placent leur confiance en